Saviez-vous que 2014 avait été l'année européenne de lutte contre le gaspillage ? Et plus récemment, avez-vous entendu parler de la semaine européenne de la réduction des déchets du 21 au 29 novembre ? C'est à cette occasion que je suis allée à la rencontre de Valeco, qui s'occupe de la collecte et du traitement des déchets dans le Blésois, qui projetait ce soir-là Global Gâchis, un documentaire sur le gaspillage alimentaire dans le monde. Je suis en présence de Lise et Émilie. Est-ce que vous pouvez me présenter votre organisation ?
Oui, donc Valeco, c'est le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blésois. Nous avons plusieurs missions. La principale, c'est le traitement. Le traitement, c'est à la fois le tri de nos déchets recyclables, donc avant de les envoyer dans les filières de traitement pour être recyclés. Il y a un premier tri qui est fait ici à côté de Valeco à Arcante, un tri manuel, et aussi l'incinération des ordures ménagères. Voilà, donc ça c'est l'une de nos missions. L'autre, c'est la collecte des ordures ménagères sur les communes hors Aglopolis. Donc on a 11 communes de collecte. Et la grande mission pour laquelle aujourd'hui il y a la projection du film, c'est la réduction des déchets, la sensibilisation à la réduction des déchets auprès de différents publics, aussi bien les scolaires que les habitants et aussi les professionnels.
Et pour la sensibilisation, quel type d'action vous menez ?
On a différentes actions auprès des scolaires. Donc ça se passe par le biais d'animations dans les classes, sur des thématiques comme l'éco-consommation, le choix du matériel scolaire, éviter les produits dangereux, le compostage aussi, quel est l'intérêt, comment ça fonctionne, les petites bestioles. Donc c'est vraiment adapté aux scolaires. Hein. Le gaspillage alimentaire. Hein. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre et puis tout le monde se sent concerné. En tout cas, on sent vraiment un engouement de la part des instits autour de cette animation. Voilà, notamment donc les scolaires, animations. Après, auprès du grand public, donc on tient régulièrement des stands, surtout à deux moments phares de l'année, c'est pendant la semaine européenne du développement durable qui est maintenant début juin, et évidemment la semaine européenne de la réduction des déchets. Là, c'est notre cœur de métier, donc forcément, on a un maximum d'événements programmés, quoi.
Et c'est en ce moment, donc.
Voilà, c'est en ce moment. Donc là, on est jeudi et ça se termine samedi. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a choisi de projeter, de faire une projection d'un film documentaire Global Gâchis.
Alors, ce soir, nous sensibilisons sur le gaspillage alimentaire, car le gaspillage alimentaire produit beaucoup de déchets. On en retrouve beaucoup dans nos poubelles, donc c'est un de nos axes principaux. Le gaspillage alimentaire représente 450 euros par foyer par an, ce qui est énorme, et aussi ça représente 20 kilos de déchets jetés par personne par an, dont 7 kilos de déchets encore emballés. Donc les produits qu'on n'a pas eu le temps de consommer, on n'a pas fait attention à son rangement du frigo, et du coup ça finit à poubelle. Et on ne fait pas forcément attention au fait que certains produits, passé la date limite de consommation, ils peuvent être encore consommables. Donc lire les étiquettes c'est bien, mais être un peu plus raisonné, je dirais, c'est aussi du bon sens le gaspillage alimentaire, donc il y a des choses à ne pas faire. Après, pour réduire les déchets, on peut aussi les valoriser par le compostage. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on vend à Valeco, des composteurs en bois et en plastique.
Tout le monde peut en avoir un chez lui ou est-ce qu'il faut des conditions spéciales ?
Alors, au niveau des composteurs, tout le monde peut avoir un composteur chez soi, à condition d'avoir un petit espace quand même à l'extérieur. Voilà. Après, on propose une solution pour les gens qui habitent en appartement, c'est le lombricompostage. Qui est un espèce de mini composteur avec des verres à l'intérieur. C'est à peu près le même procédé que le compostage, mais adapté à des appartements, quoi. Voilà.
Les lombricomposteurs. Comme j'en avais jamais entendu parler, je suis allée voir ça de plus près chez Masato, qui en utilise un depuis déjà plusieurs années. Bonjour Masato.
Bonjour Clémentine.
Tu as un lombricomposteur.
Oui.
Est-ce que tu peux nous le décrire déjà un petit peu, s'il te plaît ?
Alors, c'est des modules plastiques qui sont surélevés. Il y a trois modules plastiques qui sont séparés par des grilles. Il y a trois étages. En gros, l'étage qui est tout en haut, c'est là qu'on met tous les déchets de cuisine.
Ouais.
Ensuite, l'étage du milieu, c'est l'étape intermédiaire où là, c'est des déchets de cuisine qui sont à moitié compostés. Et tout en bas, c'est là où on peut récolter le compost. Il y a un petit robinet qui permet de récolter le jus en surplus contenu dans les bacs.
Ça prend combien de temps à peu près à partir du moment où tu mets des déchets jusqu'au moment où on a du compost?
Alors, je pense que théoriquement, ça prend 3 mois à peu près.
3 mois?
Ouais.
Quelle est la différence avec un composteur normal?
La différence, c'est qu'en fait, là, on va amener les vers artificiellement et qui vont accélérer le processus de compostage des déchets. Après, quand on a un composteur dans son jardin, les vers, qui sont les vers, c'est une
espèce différente.
Une espèce différente qui s'appelle Esenia fetida, où il y a une autre espèce dont j'ai oublié le nom, mais c'est Esenia quelque chose aussi. Ils vont venir aussi, parce que c'est des vers qui habitent dans la litière de la forêt.
D'accord, mais ils vont venir naturellement.
Voilà, ils vont venir naturellement, sauf que ça va mettre un peu plus de temps. Et puis on va aussi avoir d'autres animaux qui vont venir en plus.
On va l'ouvrir. On voit des plantes, on voit des légumes, du marc de café, des épluchures. Est-ce qu'on peut mettre de tout ou est-ce qu'il y a des choses à éviter?
Alors on peut mettre quasiment de tout. Il y a juste certaines choses que les vers n'aiment pas trop. Comme par exemple l'ail, le poireau, l'oignon.
D'accord.
Qui sont un peu vermifuges, c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Et ensuite, il y a des choses qu'on ne met pas, un peu comme dans le compost normal, en fait, ce qui sont tout ce qui est déchets
animaux. Ouais. Et est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des épluchures d'agrumes? Je crois que c'est à éviter dans les composteurs normaux, parce que ça met vraiment du temps.
Ça, je ne me suis pas renseigné, mais je crois que c'est pareil, il vaut mieux éviter.
Ouais. Ça prend du temps. Et on peut aussi mettre du carton, du papier, des choses...
Voilà, tout ce qui est la matière carbonée, ils aiment beaucoup. Et ça les aide à avoir une espèce d'alimentation équilibrée, on va dire.
Et ça éponge peut-être un petit peu...
Voilà, ça éponge l'humidité. Et puis c'est un peu équivalent à ce qui se passe dans la nature où, comme je te disais, c'est des vers qui sont vraiment sur la litière de forêt, à la base, et qui mangent les matières organiques en décomposition. Voilà, ça leur permet d'avoir quelque chose d'équivalent en matière carbonée qui sont les feuilles mortes en forêt.
D'accord. Et donc, tu l'ouvres régulièrement pour regarder où ça en est?
Alors, ou... Non, je ne suis pas si curieux que ça. Non, je l'ouvre surtout pour leur donner à manger. Quoi. Enfin, pour jeter mes déchets. Quoi.
Et pour récupérer le compost, à part le robinet pour la partie liquide, le compost en terre...
Tu vois, le compost en terre, je te soulève pour que tu regardes. C'est hyper lourd, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas enlevé. Donc, du coup, il est très, très compressé. Non, moi je l'ai pris une autre fois.
Mais et tu le récupères régulièrement
l'étage, là j'aurais pu le récupérer il y a quelques temps, mais c'est vrai que j'ai été un peu flemmard. Je vais regarder l'étage intermédiaire.
Mais il y a la place quand même pour stocker pendant...
Voilà, pendant 3 mois. Quoi. Après ça dépend de la consommation de légumes et de café.
Ah oui, donc là on les voit qui gigotent. C'est...
Ils n'aiment pas trop la lumière.
Ouais.
Et donc, c'est assez difficile de les observer longtemps, parce que dès qu'on ouvre le couvercle,
ils vont se cacher.
Ils vont se cacher vers le noir.
Bien sûr.
Voilà, là, tu vois, il y a plein de... On a jeté plein de graines de potimarron.
Du coup, qui ont germé.
Et tout est en train de sortir.
une vraie jardinière.
Voilà. Je pensais pas que ça sortirait aussi.
Et les vers, donc, ils t'ont été donnés avec le composteur?
Voilà, c'est ça. Avec, quand on demande... Là, en l'occurrence, là, c'est Valeco qui m'a fourni le lombricomposteur. Et il donne en même temps une petite poignée de vers.
D'accord.
Et après, ils
se reproduisent tout seuls ou...
C'est ça, ils se reproduisent tout seuls. Et ils s'autorégulent en population, quoi. C'est selon la quantité de nourriture.
D'accord.
La population de vers va s'adapter.
Et ça coûte combien à peu près un lombricomposteur comme ça?
Je crois que c'est 25 ou 30 euros. Quoi.
Oui, donc c'est pas excessif.
C'est parce que c'est fourni par Valeco, donc qui en a acheté en très grande quantité dans sa politique de réduction des déchets. Et si j'ai bien compris. Hein. Et qui les vend donc moins cher que dans le commerce, parce que dans le commerce, je pense que c'est entre 80 et 100 euros.
Ouais, je crois qu'on peut aussi en faire soi-même, c'est pas très compliqué.
C'est pas très compliqué.
Avec du polystyrène ou du plastique. Il faut juste que ce soit bien opaque.
Après, ce qui est bien géré ici, c'est la question du jus là, et du petit robinet.
Bien sûr.
Donc ce
donc
jus
ça,
là
tu
qui
peux
est...
aussi le récupérer pour arroser tes plantes ou...
Voilà, c'est ça. Ça fait comme un petit fertilisant qu'on ajoute à l'eau d'arrosage.
Dilué du coup?
Voilà, parce dilué. Il faut assez... diluer à 1 pour 10 quoi, parce que c'est assez fort.
D'accord. Et le gros avantage, c'est quand même qu'on peut l'utiliser en appartement.
Voilà, c'est ça. C'est...
Là, il doit faire à peu près 50 cm sur 50 cm.
Ouais.
Et en hauteur, je sais pas, 60 ou 70.
Ouais, c'est ça, 60.
Ça t'est déjà arrivé de partir en vacances ou en week-end et de pas pouvoir les alimenter?
Alors oui, ça complètement, il n'y a pas de problème, ils sont très, très autonomes.
D'accord.
Même ça m'est arrivé des fois de manger très peu à la maison et donc de ne pas avoir d'épluchure à leur donner. Et il n'y a pas de problème. Et donc, même si on part pendant un mois avec la population assez forte, mm-hmm. bah, peut-être que la population va légèrement diminuer si on ne les nourrit pas, mais après, ils vont repartir sans problème.
Ok. Et ça fait combien de temps que tu l'as?
Là, ça doit faire 2 ans.
Deux ans. Et avant, est-ce que tu faisais du compost sans verre?
J'en avais fait un peu, oui, en jardin, quoi. Mm-hmm. Mais voilà, là, c'était plus simple, en fait. Oui, c'est parce que oui, quand je suis arrivé à Blois, j'ai commencé à habiter en appartement. Ça me gênait un peu de jeter tous les déchets organiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette solution. C'est vrai que j'en avais déjà fait quand j'étais à Paris. Mm-hmm. Mais c'était dans une espèce de seau. Enfin, que j'avais fabriqué moi-même, mais là c'était beaucoup plus difficile de gérer la question du jus et de l'humidité.
Bien sûr.
Souvent c'était trop humide, et donc là au bout d'un moment les vers mouraient. Donc là il fallait.
Et j'imagine être que l'odeur devait être plus forte, parce que là c'est vrai qu'on sent rien du tout.
Non, l'odeur c'est pas vraiment un problème, c'est seulement si on met des mauvaises choses donc, qui vont nuire à la santé des vers. Donc, et sinon, si on met de la viande ou des choses comme ça ou du fromage qui peuvent pourrir.
D'accord.
Ils vont être vraiment bien dégradés.
Et donc, tu le fais plus pour une question d'écologie, de conscience, ou plus pour une question d'avoir moins à sortir tes poubelles ou...
Non,
pour c'est... utiliser le compost
ou... Voilà, c'est plus pour utiliser le compost, c'est un petit peu tout. Puis parce que je me dis que c'est dommage de jeter les déchets organiques à la poubelle. Quoi. Donc...
Bien sûr.
Donc voilà.
On peut faire tellement de vers heureux.
Mais là, c'est dommage, on les voit pas... Parce qu'on les a beaucoup ouverts, quoi. Mais sinon,
oui.
On le voit vraiment qui.
Oui, quand j'ai ouvert la première fois, j'ai quand même vu que.
Ils sont, ouais.
Ils sont assez nombreux et.
Très, très agités.
Et toi, comment t'as entendu parler des lombricomposteurs?
Alors, les lombricomposteurs, exactement, je me rappelle plus. Je crois que c'était Valeco qui avait dû envoyer des prospectus, justement, pour, dans sa politique de réduction des déchets. Et donc, ils proposaient, soit pour les gens qui ont des jardins, soit un composteur, soit pour les gens qui habitent en appartement ou même en maison, d'acquérir un lombricomposteur. Et puis, donc voilà, comme ma première expérience auto-fabriquée n'était pas très concluante, je me suis dit que bon, plutôt que de fabriquer un modèle qui ne marcherait pas forcément ou que je laisserais tomber au bout d'un moment, je vais acheter quelque chose.
Là, au moins, c'est efficace.
Voilà, là, je n'ai pas trop à m'en occuper et ça marche bien.
Très bien. Est-ce que tu as convaincu d'autres gens, des connaissances?
Oui, étonnamment, il y a pas mal de personnes que ça... Bon, il y a des personnes que ça dégoûte complètement, mais il y a des personnes qui sont super emballées et qui veulent en acheter un aussi.
Très bien.
Ou qui en ont déjà acheté un, d'ailleurs.
Ouais. Bah, je vais peut-être y passer, moi aussi.
Parlons gastronomie. Si je mange, je veux être puni. Est-il possible de rendre un peu notre repas plus harmonieux? Il est certain que c'est rassurant, toujours les mêmes ingrédients. Imaginez qu'une salade verte arrive ici, ce serait l'alerte. L'équilibre d'un musicien est très fragile, on le sait bien. Le ministère de la culture est obligé de prendre des mesures. L'austérité d'une vie rythmée par des repas prédigérés semblait manquer à notre décor. Il y en a qui disent qu'on veut notre mort.
Alors vous aussi, comme Masato, pensez au compostage pour réduire vos déchets et profiter d'un engrais de bonne qualité et gratuit. Vous êtes bien sur Studio Z et nous retournons tout de suite dans les locaux de Valeco pour la projection du documentaire Global Gâchis.
Cette semaine, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets, donc on fait plein d'actions. Coup de poing sur la sensibilisation de tous les habitants à la réduction des déchets, avec un focus sur le gaspillage alimentaire ce soir. Au au-delà d'être un problème environnemental, c'est un problème aussi éthique et social. Alors, on va voir. Donc, on a choisi un film parce qu'il retranscrit bien ce fléau qui est en fait mondial. Hein. C'est pas qu'en Europe. Alors, évidemment, on gaspille pas de la même façon puisqu'on n'a pas tous le même rapport à la nourriture, pas tous le même accès à la nourriture. Donc, ça fait un état des lieux du gaspillage alimentaire dans le monde. Mais ce n'est pas non plus que catastrophique, il y a aussi des avancées de solutions. Voilà. Donc l'intérêt, c'est d'en parler, de vous communiquer, d'en parler par la suite, parce qu'on recherche aussi des idées, des solutions, de mettre le doigt aussi sur des problèmes qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience et connaissance. Donc voilà, je ne vais pas vous mettre plus longtemps, et puis on lance le film.
Bonjour, je m'appelle Tristram Schwab. J'ai été élevé dans une ferme de la campagne anglaise.
Et s'ils sont
là-bas, on cultivait
des légumes. Ça va pas, vous nous dites, on monte, on descend.
Et moi, j'avais des animaux.
Ça va,
quand j'avais 15 ans, à l'école,
ouais.
J'allais toujours ramasser les restes de la cantine. Je les donnais à mes cochons. Déjà, le gaspillage me choquait. Des années plus tard, j'ai commencé une enquête sur le gaspillage alimentaire. Et j'ai vu que c'est un problème massif et mondial. Ici, dans cette usine, on traite une partie du gaspillage de Londres, la ville où je vis. Chaque année, les Anglais jettent plus de 16 millions de tonnes de nourriture. Et souvent, elle est encore comestible.
Des temps usagés, les jouets, l'ancien bébé, les meubles de la cave de mémé,
de vieux cadeaux de Noël.
Voilà tout ce qu'on peut ramasser, ça peut encore aller. C'est quand même pas au supermarché, mais y a de belles poubelles.
De vieilles charognes putréfiées, des bouteilles de gaz prêtes à péter, de l'acide, des piles et des briquets,
on peut pas dire que ce soit mort. Des milliers de verres par matinée, quelques milliards quand c'est l'été, quand on trouve pas un chaligoté ou le col.
Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ceci dit, les consciences commencent à s'éveiller. On commence tout doucement à légiférer. Voilà, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un tiers de la production qui est de toute façon mise à la poubelle. Hein. La production mondiale, c'est-à-dire que pour 10 pommes. Produits pour 10 paquets de gâteaux produits, pour 10 poulets mis à la vente, il y en a automatiquement au moins 3 qui vont partir à la poubelle. Voilà. Mais les ménages restent, donc nous, pour l'instant, les plus responsables du gaspillage alimentaire, aux deux tiers.
Voilà. Quand vous dites le ménage, c'est la partie qui n'est pas consommée, parce qu'il est acheté, c'est ça.
Voilà, à partir du moment où c'est mis à la vente et que ça sort du magasin. Ouais. C'est pour deux tiers qu'on est responsable, les particuliers, les ménages.
Moi, je dirais quand même que les ménages sont responsables à 100%, parce que, en réalité, le gâchis dans les supermarchés, il est dû au fait que le supermarché n'a pas le choix. En fait, le consommateur qui
le
ne
consommateur,
veut pas.
Oui.
Qui est, pas manger,
qui est devenu de plus en plus.
C'est-à-dire, c'est moi, quoi, voilà.
Oui, bah, tous, même moi, je me surprends. Alors, j'essaye au maximum d'éviter la grande distribution pour. Mais bon, bah, voilà, des fois, il m'arrive quand même d'acheter des légumes. Et il m'arrive de trier. C'est un peu bête, quoi. Je contribue moi aussi. L'année dernière, il a été organisé une disco soupe. Alors, une disco soupe, ça éveille les consciences. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe des disco soupes. C'est récupérer les invendus dans les magasins. Donc l'année dernière, les jardins de Cocagne avaient grandement participé. Donc récupération de légumes défraîchis, découpage par des volontaires, cuisine et service gratuit. Voilà, donc ça passe aussi, je pense, par une éducation au goût, se remettre à la cuisine aussi, ce qui est bien dit dans le. Dans le documentaire, c'est qu'on n'a pas le même rapport par rapport à un plat qu'on a cuisiné avec amour, hein, on a mis du temps, de l'énergie, qu'un plat tout fait, suremballé.
Comptez que les produits qui sont jetés sont encore consommables, vraiment, dans les grands magasins.
Dans les magasins,
quand on voit, c'est impressionnant. Quoi. C'est...
Prenons par exemple les dates. Les consommateurs, sur l'étal, mm-hmm. prennent le produit le plus frais.
Oui.
Donc on réapprovisionne avec du plus frais encore.
Oui.
Et donc il y a forcément des aliments qui vont rester. Mm-hmm. Bon. Oui. Moi j'avoue, depuis très peu de temps, je fais attention à ça. Je prends le produit le plus vieux, surtout quand je sais que je vais le consommer tout de suite.
Oui, voilà, c'est ça.
Et on va légiférer sur quoi si,
sur l'obligation de donner plutôt que du
de donner.
De donner. Ouais.
Ouais. Oui, une question. Est-ce qu'au niveau local ou départemental, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des initiatives, particulières, enfin, vous parliez des discos souples, etc. Ouais. Mais en rapport avec justement les grandes surfaces qui sont quand même très concernées par ce sujet.
Ouais.
Et faire de la sensibilisation dans ces grandes surfaces parce que c'est là où on touche le plus de monde, malheureusement. Tout le monde ne va pas sur le marché. Voilà, je voulais savoir s'il y avait des
choses
dans ce
sens. Alors oui, il y a des initiatives. Alors déjà, la banque alimentaire, je sais qu'elle va régulièrement se fournir au Leclerc. Hein. Mm-hmm. Dont la mission, je crois, est de trouver un exutoire, en tout cas, aux légumes et fruits invendus des maraîchers locaux.
Mais en tout cas, il n'y a pas de sensibilisation obligatoire, en tout cas, pour ces grandes surfaces.
Voilà.
Après, il y a aussi la manipulation des fruits et légumes. Enfin, je vois dans les supermarchés, c'est ça qui détériore énormément les fruits et légumes.
Ce non-respect, je vais chercher au plus profond, parce que ça n'a pas été souillé, ça n'a pas été touché. Donc finalement, celui qui cherche le non-souillé va souiller
ses
autres.
Et d'autant plus qu'ils innovent dans des variétés de plus en plus résistantes qui peuvent être manipulées 15-30 fois par les gens et elles ont de moins en moins de goût. Et...
Bah oui, c'est ça, c'est
pour les tomates notamment, je vois ça.
Il faut qu'ils soient résistants, qu'ils coulent bien.
Dans la présentation, il y a un levier qui n'a pas été développé. C'est le levier économique. C'est vrai qu'en tant que consommateur, on était un peu conditionné pour choisir des beaux fruits et légumes, hein, tout ce qui est publicité, la pomme ronde, la tomate rouge, etc. Si on prend deux tomates, une qui est un peu abîmée et une qui est parfaite, si elles sont au même prix, forcément on va aller vers celle qui est parfaite. Si on fait une différence de coût entre celle qui est parfaite et celle qui est un peu abîmée, là, le consommateur va commencer à se poser la question. Et cette démarche économique qui va favoriser le choix psychologique du client, ça commence à se mettre en place tout doucement. Certains supermarchés, on parlait du Leclerc, de la Salamandre, l'a mis en place sur les produits qui sont à courte date, ou au moins la date de péremption est assez proche. Il y a du moins 20, moins 30%, moins 50% sur certains produits, des petites pastilles rouges qui sont mises dessus. Et ce levier économique est vraiment intéressant parce que n'importe qui va se poser la question. On est conditionné par la perfection du produit, mais on est aussi conditionné par le coût de la nourriture la plus basse possible. Et c'est un aspect qui, à mon avis, n'est pas négligé parce que si on veut avoir des effets de masse, on a vu beaucoup de solutions, d'initiatives locales. La seule initiative globale qu'on a vue, c'est au Japon. Ça passait par une réglementation qui est très poussée. Il y a pas aussi une conscience que le peuple japonais a sur les matières premières. Nous, en France, on a quand même un comportement de latin, hein, faut pas se le cacher. Et moi, le premier, s'il n'y a pas un aspect économique qui rentre en jeu, ça va être très compliqué d'avoir ces pratiques-là sur du long terme et d'avoir une influence importante, on va dire, en termes d'échelle.
Ouais.
On a commencé les légumes déclassés aussi.
Ouais.
Bon, les jolis légumes qui sont vendus à prix fort et tout ce qui est légumes biscornus, en fait, qui est proposé à moitié prix.
Et puis culturellement, ça renforce l'idée que le produit qui n'est pas le plus beau a moins de valeur.
C'est-à-dire qu'il faut, dès le plus jeune âge, remettre au goût du jour peut-être les cours de cuisine, hein, les mains dans la terre aussi, faire son petit potager. Bon, il y a des écoles qui s'y mettent.
J'aurais une autre question. Je me pose la question depuis pas mal de temps. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de tri sélectif à Blois?
En porte-à-porte?
Oui.
Parce que le tri sélectif, il y est, mais c'est en point d'apport volontaire.
Oui, c'est ce qu'on fait. Mais je suis intimement convaincu qu'en porte-à-porte, ça doit être plus efficace parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui ne font pas la démarche.
Monsieur Gras, si vous pouvez répondre à la question du tri qui vous a été posée.
Alors, en deux mots, concernant le tri, effectivement, il n'a pas évolué en termes de. Depuis qu'on l'a mis en place en 1995, hein, ça remonte déjà il y a quelques années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit l'ADEME ou Eco-Emballage, préconise plutôt justement de revenir au tri en apport volontaire pour l'ensemble de ceux qui sont passés en porte-à-porte il y a quelques années. Parce que quand vous êtes en porte-à-porte, Vous avez du refus de tri forcément, hein, et vous en avez plus que comme vous en avez en apport volontaire. Et sur l'apport volontaire, on est entre 10 et 12-13 %. Sur du porte-à-porte, on passe facilement à 30 à 50% de refus de tri. Donc vous payez deux fois quand vous avez du refus. Donc le refus coûte très cher. Et donc quand vous avez effectivement un système qui vous permet d'avoir moins de refus, bah, c'est quand même plus intéressant. Hein, donc finalement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus dans la durée finalement que du porte-à-porte. Alors après, pour l'histoire du porte-à-porte...
Pardon, oui, excusez-moi, je n'ai pas forcément bien compris. Un taux de valorisation, c'est par rapport au volume global de déchets?
Oui, c'est ça.
Vous valorisez à peu près autant?
Voilà, que quand on fait du porte-à-porte.
D'accord.
Parce que vous avez moins de refus, d'accord, même si vous collectez moins, finalement, vous avez moins de refus. Donc ce qui compte finalement à la fin, c'est ce que vous allez effectivement valoriser. Et on retrouve hein, d'ailleurs maintenant de l'apport volontaire en centre-ville du Tour, par exemple, ouais. Qui n'est pas si loin que ça, hein, et qui sont finalement repassés du porte-à-porte à l'apport volontaire. Alors, l'histoire du porte-à-porte, c'est que le petit point, vous voyez les deux petites flèches qui s'entrecroisent, hein, qui s'appellent éco-emballage. Ouais. Éco-emballage, ça veut pas, quand les deux petites flèches s'entrecroisent, là, le point vert, hein, ça ne veut pas dire que c'est un produit recyclé, ça ne veut pas dire que c'est un produit recyclable, ça veut dire à payer une somme à une société privée agréée par l'État qui s'appelle éco-emballage, pour vocation de redistribuer de l'argent aux collectivités locales. Donc en fait, hein, les fabricants d'emballage payent quelque chose à cette société, et cette société redistribue de l'argent aux collectivités locales pour favoriser le tri. Donc bien sûr, les fabricants d'emballage trouvent qu'ils payent trop cher, et nous, on trouve qu'on ne reçoit pas assez d'argent. Ça, je vous laisse imaginer les débats. Enfin, grosso modo, on dit aujourd'hui qu'on a à peu près 55% du coût de la collecte et du tri qui sont effectivement financés par éco-emballage, et donc 45% restent encore à charge des collectivités. Et donc, dans les années 95-2000, on va dire, éco-emballage a reçu énormément d'argent, puisque les fabricants d'emballage payaient leurs taxes à éco-emballage. Et donc, éco-emballage s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de millions d'euros sans avoir finalement de tonnage en face, puisque effectivement, on était tous en apport volontaire et que, bah, on est bien d'accord qu'en apport volontaire, ça monte lentement. Donc, à un moment donné, les emballeurs ont dit, mais écoutez, éco-emballage, vous avez beaucoup d'argent. En face, vous en distribuez peu, puisque vous avez peu de tonnage. On va arrêter le système. On va arrêter le système. Enfin, en tout cas, on va diminuer notre participation, puisque finalement, vous êtes assis sur une montagne des millions et des centaines de millions. Donc, à Corvalage, s'est dit, si je veux pas que mes emballeurs arrêtent de me financer, il faut absolument que je monte très rapidement la quantité de déchets collectés. Et c'est pour ça qu'ils sont allés systématiquement dans toutes les collectivités pour signer des contrats, mais là, en porte-à-porte, parce qu'il fallait faire monter très vite la collecte des emballages ménagers. Il faut quand même se rendre compte qu'une benne à ordures ménagère, hein, c'est 80 litres au 100, hein, en termes de gazole. Hein. Aller collecter en porte-à-porte dans des fermes de la bouteille plastique, voilà, il y a une aberration en termes de préservation de l'énergie et préservation des matières premières. Quoi. Et donc, il faut peut-être arriver à repasser à effectivement cette forme d'apport volontaire, même si on a l'impression que c'est une régression en arrière. Mais alors là, la notion de régression ou d'avancée en termes d'environnement est très relative. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quelques 50 ans, on a détruit tous les tramways parce que vive la voiture, parce que vive la liberté, et qu'aujourd'hui, tout le monde reconstruit son tramway et que finalement, la ville qui n'a pas son tramway aujourd'hui est en retard. Donc il faut parfois prendre un peu de recul et se dire qu'est-ce qui effectivement, quelles que soient les modes, hein, qu'est-ce qui effectivement est intéressant pour l'environnement, qu'est-ce qui peut être éventuellement intéressant pour le service public, etc. Et puis dernier sondage, à mon avis, on fait un petit sondage là dans la salle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui sache dans la salle combien ils payent effectivement par an de taxes d'ordures ménagères.
C'est un peu mouillé.
Voilà. C'est trop cher, mais on ne sait pas combien ça coûte. En fait, on est grosso modo autour de 100 euros par an et par habitant, à peu près. Un habitant paye environ 10 euros par mois, un peu moins, 9 euros par mois, pour la collecte et le traitement de l'ensemble de ces déchets. Hein, parce que ça comprend non seulement la collecte que vous avez aux ordures ménagères, hein, mais la collecte sélective et les déchetteries. Hein, d'accord ? Voilà, parce que on se focalise parfois sur la taxe d'ordures ménagères, parce qu'effectivement vous avez une taxe d'ordures ménagères. On ne se préoccupe pas de la taxe pour, je sais rien, pour les routes de la commune, pour la... Mais elle qui s'appelle taxe foncière bâtie ou taxe foncière non bâtie, mais qui va financer les écoles, les routes, le je sais pas quoi, le, enfin un certain nombre de choses, hein, diverses et variées. Je suis conseiller municipal, donc je suis un petit peu... Voilà. Et parfois, il y a des gens qui me disent ah, « Moi, je produis pas de déchets et pourtant je paye ». Il dit oui, mais vous avez plus d'enfants depuis longtemps à l'école, mais vous payez quand même pour l'école. Et d'ailleurs, vous êtes très content finalement parce que ça fait vivre le village, parce que etc. Je parle beaucoup, excusez-moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Pour les piles nucléaires, l'avenue de l'effet de serre. Pour les tas de graves, la rue des gros bois. Pour les machins en fer, à bien autour de Lucifer. Pour les morceaux de bois cassés, Dieu dit. Robinson Crusoe, pour les bouteilles de lait, le paradis des bébés, pour les vieux lits troués, rue de l'amour retrouvé, pour les vieilles couches pleines de litière, l'allée des pissotières, et pour tout ce que je n'ai pas cité, la rue des objets troués. C'est le blues du ripaf. Dans un petit coin de paradis.